Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Nouveaux projets et la presse. Au programme, à vos impôts, citoyens. Et les États-Unis ont autorisé un nouveau médicament très attendu contre l'Alzheimer. Bonne écoute.
À vos impôts, citoyens. Un texte de Hélène Buzetti, paru dans l'édition Printemps-été 2022 dans le magazine Nouveaux projets. Nous sommes-nous trop déresponsabilisés de la production de nos déclarations de revenus? Le dinosaure en moi frétille d'impatience. Voici venu ce temps béni de l'année où je taille mes crayons et dépoussière ma gomme à effacer et où, si elle n'avait récemment rendu l'âme, j'extirperai aussi de son étui cette fidèle calculatrice scolaire qui avait l'avantage de ne pas perturber un calcul avec des alertes inopportunes comme ce téléphone dont je me contente désormais. C'est la joie, car la saison des impôts est enfin arrivée. J'entends d'ici vos cris d'orfraie. Il n'y a qu'une masochiste pour saliver à la perspective de faire elle-même sa déclaration de revenus. Une masochiste ou une fille de comptable. Je confesse faire partie de cette seconde catégorie. J'ai reçu en héritage le goût des nombres. Mon ADN est fait de chiffres et on m'a appris tôt à parler comptabilité. Le gain en capital, l'exonération fiscale, les taux d'amortissement, l'imposition des revenus locatifs et la dépréciation s'invitaient très régulièrement à la table dominicale. Mon père ne croyait qu'aux chiffres et nous faisait communier avec lui en nous enseignant les tables d'impôts. Conversation vulgaire de parvenus mécréants? C'est au contraire la meilleure école de sciences politiques et de sens civique. Quand quelqu'un confie qu'il parlait politique avec sa famille, on se représente généralement des discussions à propos des partis, de leur positionnement idéologique, de leur chef, de leur scandale aussi. On pense à des échanges enflammés à l'approche d'une campagne électorale ou d'un référendum. On présume de déchirantes dichotomies rouge, bleu, oui, non. On conjecture peut-être même des ruptures définitives. On imagine plus rarement un débat sur la pertinence de compléter l'annexe 9 pour remplir la ligne 34900 du formulaire T1. Pourtant, la fiscalité est un sujet éminemment politique. Ce n'est rien d'autre que de la politique appliquée. Pourquoi élit-on des gouvernements? Certes, pour voter des lois. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas de faux témoignages, tu fumeras un joint si tu veux, pour peu que tu acquittes la taxe d'assise. Mais on élit surtout un gouvernement pour gérer la cagnotte collective, pour déterminer qui en bénéficiera et, avant toute chose, qui y contribuera et à quelle hauteur. Cette détermination est au cœur de l'action gouvernementale. No taxation without representation est après tout l'un des slogans politiques les plus anciens d'Amérique. La fiscalité révèle l'âme d'une nation. Chaque catégorie de revenus, mise à contribution ou exemptée d'efforts, dévoile une intention politique, une aspiration collective, une préférence sociale. Chaque choix fiscal trahit une inclination progressiste ou, au contraire, conservatrice, un a priori individualiste ou communautaire. Dis-moi qui tu taxes et je te dirai qui t'a élu. Les sources de revenus privilégiées par un gouvernement nous indiquent quels citoyens trouvent grâce à ses yeux et lesquels sont oubliés ou négligés. La déclaration de revenus et ses principales annexes renseigne mieux que n'importe quel bulletin de nouvelles sur l'action politique du gouvernement, sur les choix de la société qu'il a porté au pouvoir. Or, de moins en moins de citoyens se prêtent à cet exercice fondamental. L'an dernier, 63% des contribuables québécois et 58% des contribuables canadiens ont fait faire leur déclaration de revenus par des spécialistes rémunérés, et ce pourcentage va croissant si on se fie aux données des 5 dernières années de Revenu Québec. Un autre tiers utilise un logiciel pour remplir sa déclaration, et il n'y a plus que 9% des contribuables qui envoient encore une version papier. L'idée n'est bien sûr pas en 2022 de faire l'éloge du papier en tant que support, mais il faut reconnaître que le recours aux spécialistes et aux logiciels engendre une forme de cécité fiscale qui a des impacts importants sur la qualité du débat public. Apprendre de sa déclaration. Il vaut la peine de remplir soi-même sa déclaration de revenus, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. C'est en survolant chacune des lignes qu'on réalise les choix qu'ont fait nos gouvernements, que l'on comprend comment se concrétisent les promesses électorales ou les annonces budgétaires. Vous êtes pompier volontaire, militaire ou policier affecté à une mission à haut risque, abonné à un média numérique, nouvellement diplômé et expatrié dans une région éloignée, nouveau propriétaire. L'État estime qu'il s'agit là de bons comportements, méritant d'être récompensés. Tous ces statuts débouchent sur des crédits réduisant votre fardeau fiscal. Idem pour les parents adoptifs et les artistes vivant de leurs droits d'auteur, à qui l'État estime nécessaire de donner un petit coup de pouce. Le religieux n'est pas en reste. Le Québec a beau faire l'éloge de la laïcité encore aujourd'hui, il soulage fiscalement, comme Ottawa d'ailleurs, les membres du clergé pour le logement qu'ils occupent. On apprend aussi à travers les formulaires fiscaux l'importance que revêtent ou ne revêtent plus autant les syndicats aux yeux de l'État. À Ottawa, les cotisations syndicales payées par un travailleur sont traitées de la même manière que les contributions à un REER. Elles réduisent d'autant son revenu soumis à l'impôt. Ainsi, comme le taux d'imposition augmente avec le revenu, plus un syndiqué gagne gros, plus sa déduction est payante. À Québec, qu'un travailleur gagne gros ou petit, sa cotisation syndicale lui octroie le même répit car elle est déduite de son impôt à payer. Tous sont donc traités également, mais plus chichement aussi. Le crédit de Québec est moins généreux, surtout depuis qu'il a été divisé par deux par le gouvernement de Philippe Couillard. On n'a pourtant pas souvenir que ce dernier ait été aussi critiqué que ne l'avait été Stephen Harper pour avoir sabré dans l'avantage fiscal accordé aux REER gérés par les syndicats. Probablement parce qu'il était de bon ton de prêter des intentions antisyndicales aux conservateurs, mais peut-être aussi, comme certains l'ont soutenu, parce que les syndicats n'ont pas hurlé autant. Le changement de M. Couillard ne leur faisait perdre aucune cotisation syndicale, alors que le changement de M. Harper risquait de leur faire perdre des contributions à leur REER, devenues soudainement moins attrayants. Dans le cas de la réforme Harper, les syndicats ont d'abord et avant tout prêché pour leur paroisse, et les contribuables n'ont pas réalisé que plusieurs d'entre eux ont davantage perdu avec la réforme québécoise. Je vous rappelle que vous écoutez « À vos impôts citoyens », un texte de Hélène Buzetti, paru dans l'édition printemps-été 2022 dans le magazine « Nouveaux projets ». Méconnaissance nuisible. C'est encore en feuilletant la déclaration de revenus et ses annexes qu'on tombe sur le tableau à 4 ou 5 colonnes, selon qu'on regarde du côté de Québec ou d'Ottawa, des paliers d'imposition. Ce tableau indique quel taux appliquer pour chaque tranche de rémunération. Il permet, en un seul coup d'œil, de saisir le caractère progressif de l'imposition fiscale. Combien de travailleurs pensent encore qu'une augmentation salariale les propulsant au palier d'imposition supérieur serait annulée par la facture fiscale additionnelle? Même certains journalistes politiques ignorent que lors d'un tel changement de palier, ce ne sont que les dollars excédentaires qui sont taxés au taux supérieur. Cette méconnaissance d'un aspect pourtant fondamental de notre régime les a amenés à houspiller la réforme fiscale du Parti libéral du Canada de 2016. Justin Desbois avait augmenté l'impôt des plus riches, lire « augmenté le taux d'imposition des revenus supérieurs à 200 000 $ pour réduire celui de la classe moyenne, lire « réduire le taux d'imposition des revenus compris entre 45 000 $ et 90 000 $ ». Parce que ceux dont les revenus dépassaient ce seuil de 90 000 $ profitaient aussi du rabais. Les commentateurs ont conclu que la réforme n'était pas progressiste. Pourtant, il n'y avait rien de nouveau là. Par exemple, les premiers 15 000 $ de revenus sont exemptés d'impôts pour tout le monde, même pour les millionnaires. Jamais personne n'avait dit que seuls les contribuables gagnant moins de 90 000 $ profiteraient du changement, car cela aurait été faux. Mais le Parti libéral a laissé les électeurs mal informés tirer cette conclusion parce que cela faisait son affaire. À l'inverse, notre méconnaissance de certains des meilleurs programmes est susceptible de nous faire perdre collectivement un temps précieux. Dans la foulée de la pandémie de COVID-19, beaucoup ont milité pour l'instauration d'un revenu minimum garanti, RMG. Pourtant, quiconque prend le temps de décortiquer les règles fiscales constate que les fondements d'une telle mesure existent déjà au Canada. Sans avoir à réinventer la roue, un gouvernement qui voudrait bonifier les revenus minimums garantis par l'État pourrait se servir de l'allocation canadienne pour enfants, ACE, du supplément de revenus garanti, SRG, et de l'allocation canadienne pour les travailleurs, ACT. Respectivement destinés aux parents d'enfants d'âge mineur, aux aînés et à tous les autres travailleurs à faible revenu, ces outils fiscaux remplissent exactement la fonction d'un RMG, fournir un revenu minimal allant décroissant à mesure que le citoyen subvient lui-même à ses besoins. Proposer un tout nouveau programme de MRG nécessiterait de faire table rase de ces mesures. Au final, il faudrait tout autant moduler le nouveau programme pour prendre en compte chaque cas de figure et s'assurer qu'il n'engendre pas d'iniquité entre les travailleurs et ne décourage pas l'emploi. La sophistication de ces programmes est la meilleure garantie qu'on aide précisément et uniquement ceux qui en ont besoin. La simplicité en fiscalité est une utopie réductrice, souvent génératrice d'inégalités. La déclaration de revenus permet par ailleurs de constater la lenteur gastéropodique de l'Agence du revenu du Canada, ARC, à s'adapter aux changements sociaux. Environ un enfant sur quatre ne vit plus avec ses deux parents biologiques ou adoptifs. La séparation n'est plus le phénomène marginal qu'elle était, disons, au début des années 1980. Pourtant, la RC exige encore que les parents séparés s'entendent entre eux pour décider qui aura droit au juteux crédit pour personne à charge d'une valeur d'environ 2000 $ par enfant. Vous ne pouvez partager ce montant avec quelqu'un d'autre. Si vous et une autre personne pouvez demander ce montant pour la même personne à charge, par exemple dans le cas de la garde partagée d'un enfant, vous devez décider ensemble qui le demandera. Sinon, aucun de vous n'y aura droit. L'ARC n'a que faire de vos chicanes de couple. Elle est sourde à votre potentielle incapacité de discuter ou de vous entendre avec votre ex. Diviser en deux le crédit semble être une tâche insurmontable pour Ottawa. « Parlez-vous ou payez », dit l'ARC. Chez nous, c'est ma mère qui réclamait ce crédit. Il a d'ailleurs été l'étincelle de mon affranchissement fiscal. Chaque année, ma mère me reprochait, plus ou moins à la blague, que mes revenus d'étudiante lui faisaient perdre une part de son crédit pour personne à charge. J'en avais assez que son besoin légitime de connaître mon revenu net pour remplir sa déclaration amène son comptable à expédier la mienne par la même occasion. À peine entré sur le marché du travail, j'étais dépossédé de mon agentivité fiscale. Tout se passait au-dessus de ma tête. J'ai voulu comprendre ce phénomène de vase communicant qui entravait mon émancipation économique. La plupart des citoyens ne sentent pas le besoin de prendre ce contrôle. C'est dommage, car ils sont moins susceptibles de contester des règles fiscales qu'ils ne connaissent pas. Or, les gouvernements encouragent cette passivité. Encourager la cécité fiscale. C'est comme si l'État tenait pour acquis que le citoyen lambda ne se mêle plus de fiscalité. Il s'adresse aux spécialistes dans un langage de spécialiste. Il ne se donne plus la peine de rédiger simplement les directives. Le langage se complexifie-t-il parce que de moins en moins de gens le lisent, ou de moins en moins de gens le lisent-ils parce que le langage se complexifie? Difficile à dire, mais le résultat est le même. Deux contribuables sur trois donnent leur déclaration en sous-traitance. L'État exerce aussi une pression immense pour amener les citoyens restants à utiliser un logiciel pour remplir leur déclaration. Le traitement sera plus rapide, fait-il miroiter. Il n'envoie plus depuis longtemps de copies papier des formulaires à remplir et des guides pour y parvenir. Il faut les demander. L'ARC ne rend même plus disponibles ces documents dans les comptoirs postaux, comme Revenu Québec le fait encore dans les caisses populaires. Le hic, c'est que plusieurs de ces logiciels offrent la possibilité de procéder par entrevue, c'est-à-dire qu'ils posent quelques questions sur la situation du contribuable et remplissent ensuite les cases appropriées à sa place. Le contribuable ne voit alors pas la logique qui est à l'œuvre. Il n'apprend pas ce qui lui coûte cher ou ce qui lui fait épargner gros. Il obtient seulement du programme un solde dû ou un remboursement. Pour la pédagogie, on repassera. Quelle part des contribuables a recours à la fonction entrevue? Impossible de savoir, mais le logiciel que j'avais un jour acheté mettait en garde contre l'utilisation de la fonction par formulaire qu'il suggérait de n'utiliser qu'en cas de grande expertise. Il y a de plus quelque chose de profondément attentatoire à pousser le citoyen à débourser pour s'acquitter de son devoir. Certes, des versions gratuites des logiciels sont offertes, mais elles s'adressent aux personnes ayant les situations les plus simples. Le seul fait d'avoir cotisé à un REER vous fait souvent basculer vers la version payante du programme. Pourquoi l'État ne fournit-il pas lui-même, gratuitement, le support informatique permettant de remplir la déclaration qu'il exige et qu'il préférerait recevoir électroniquement? Cette façon de se détacher peu à peu de cet exercice annuel affaiblit le rapport des citoyens avec leur gouvernement. S'ils connaissaient mieux les règles fiscales et réalisaient à quel point elles constituent de puissants leviers politiques, ils ne seraient peut-être pas aussi enclins à réclamer une déclaration unique, à l'instar du Premier ministre François Legault. Ottawa et Québec ont développé au fil des décennies une fiscalité différente. Les crédits d'impôt ne sont pas les mêmes dans les deux capitales, ou alors ils ne sont pas calculés de la même manière. Même votre revenu total n'est pas identique selon qu'il est déclaré à Ottawa ou à Québec. Aucun palier de gouvernement ne cédera à l'autre son autonomie fiscale et sa capacité de faire des promesses électorales. La déclaration unique permettrait d'envoyer nos renseignements à une seule et même adresse, électronique ou postale, mais elle ne diminuerait probablement pas le nombre de pages à remplir ou de calculs à effectuer. La déclaration de revenus nous permet de prendre conscience du fonctionnement de plusieurs mécanismes de solidarité ou, dans certains cas, de favoritisme. En ce sens, remplir soi-même sa déclaration est un geste civique qui devrait être davantage encouragé. On se désole parce que le taux de participation électorale stagne autour de 60%, mais personne ne s'offusque qu'environ deux contribuables sur trois se désintéressent de leur participation financière à cette démocratie. Au printemps dernier, 29,6 millions de contribuables ont déclaré leurs revenus de 2020 à l'ARC. À l'automne suivant, ils étaient 17 millions à avoir voté à l'élection fédérale sur un total possible de 27 millions d'électeurs. En d'autres mots, même avec un taux de participation électorale de 100%, il y aurait moins de Canadiens qui votent que de résidents devant déclarer leurs revenus au Canada. Il serait peut-être temps de redonner à ce geste toute l'importance qu'il mérite. C'était « À vos impôts, citoyens », un texte de Hélène Buzetti, paru dans l'édition Printemps-été 2022 dans le magazine Nouveau Projet. Les États-Unis ont autorisé un nouveau médicament très attendu contre Alzheimer. Un texte de l'agence France Presse, paru le 6 janvier 2023 dans La Presse. Washington. Les autorités sanitaires américaines ont autorisé vendredi un nouveau médicament contre Alzheimer visant à réduire le déclin cognitif des patients souffrant de cette maladie neurodégénérative, un traitement très attendu après le lancement raté d'un précédent médicament au mécanisme similaire il y a un an et demi. Le nouveau traitement, qui sera commercialisé sous le nom de Leqembi, est désormais recommandé par l'Agence américaine des médicaments, FDA, pour les patients n'ayant pas encore atteint un stade avancé de la maladie. Administré par intraveineuse une fois toutes les deux semaines, il est développé par l'entreprise pharmaceutique japonaise Eisai en partenariat avec l'américaine Biogen. Il représente une avancée importante dans notre bataille pour traiter efficacement la maladie d'Alzheimer, dont souffrent quelque 6,5 millions d'Américains, a déclaré la FDA dans un communiqué. Le Leqembi, dont le principe actif est nommé lecanemab, cible les dépôts d'une protéine appelée bêta-amyloïde. Si la cause exacte de la maladie d'Alzheimer reste mal comprise, les cerveaux des patients présentent des plaques amyloïdes qui se forment autour de leurs neurones et les détruisent à terme. C'est ce qui entraîne les pertes de mémoire caractéristiques de la maladie. Dans les dernières phases, les patients ne peuvent plus effectuer les tâches quotidiennes ou tenir de conversations. L'autorisation de la FDA s'appuie sur les résultats d'essais cliniques ayant montré que le médicament permettait de réduire les plaques amyloïdes. L'agence mentionne également les résultats d'essais cliniques plus vastes, publiés récemment dans une revue scientifique et dont la FDA prévoit de recevoir les données complètes prochainement. Menés sur près de 1 800 personnes suivies pendant 18 mois, ces essais avaient révélé une réduction de 27% du déclin cognitif des patients traités avec le lecanemab. Une première pour un médicament de ce type. Mais l'étude avait également révélé des effets indésirables graves. Une partie des patients traités ont souffert d'hémorragie cérébrale. Au moins une personne ayant reçu le traitement est décédée. Compte tenu de ces inquiétudes, savoir si le lecanemab va vraiment changer la donne, comme certains le disent, reste à prouver, avaient écrit des experts dans le journal scientifique de Lancet début décembre. La FDA a inclus un avertissement concernant le risque de saignement dans les informations du médicament. 26 500 $ par an. Selon un communiqué d'Essai, environ 100 000 personnes pourraient recevoir ce traitement aux États-Unis d'ici 3 ans, compte tenu des critères d'éligibilité, déficit cognitif léger et confirmation de la présence de plaques amyloïdes. Il s'agit du deuxième traitement contre Alzheimer, approuvé récemment par la FDA, après la du Helm en juin 2021, qui utilise une molécule nommée aducanumab. Également produit par les sociétés Biogen et Eisai, et visant également les plaques amyloïdes, il s'agissait du premier médicament mis sur le marché contre cette maladie en près de 2 décennies. Mais son lancement n'avait pas eu le succès escompté. Son autorisation avait suscité la controverse, certains experts critiquant le manque de preuves sur son efficacité. Son usage avait par la suite été restreint aux personnes atteintes de cas modérés de la maladie. Un récent rapport parlementaire américain a également blâmé son prix exorbitant, 56 000 $ américains par an. Le système de couverture santé fédérale Medicare, destiné aux personnes âgées, avait annoncé ne le rembourser que s'il était pris dans le cadre d'essais cliniques. Le Leqembi sera, lui, lancé à un prix de 26 500 $ par an, dans le but de promouvoir l'accès pour les patients, réduire le poids financier global et soutenir la pérennité du système de santé, a annoncé Essay vendredi dans un communiqué. La question de la couverture de ce nouveau traitement par Medicare n'a pas encore été tranchée. Les personnes avec cette maladie mortelle n'ont pas le temps d'attendre un remède miracle, a déclaré dans un communiqué Joanne Pike, présidente de la Alzheimer Association, qui a appelé à ce que Medicare accepte de rembourser le Leqembi. Il a été approuvé dans le cadre d'un programme accéléré de la FDA qui permet d'autoriser plus rapidement des traitements contre des pathologies graves et ne pouvant pas déjà être efficacement soignés. Depuis des décennies, les chercheurs ont échoué à réaliser une véritable percée dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer, et c'est pourquoi l'autorisation de cette nouvelle classe de traitement a suscité tant d'espoir chez certains. Mais aucun remède permettant une guérison n'existe encore à ce jour. C'était « Les États-Unis ont autorisé un nouveau médicament très attendu contre Alzheimer », un texte de l'agence France Presse, paru le 6 janvier 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Nicolas Wartman et Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.